déboires récents de Vivaldi ont plongé sa chanteuse de prédilection, Anna Giro, dans un état de langueur particulièrement inhabituel. Plus rien ne lui procure de la joie, même pas la nouvelle saison d'opéra qui s'apprête à démarrer. Dans la maison de Vivaldi, les âtres de cheminée restent éteints. Le Palazzo Bembo est visible de la plupart des fenêtres de la bâtisse. Le pâle soleil s'y reflète et vient percuter la façade du compositeur. Là, avachi dans un grand fauteuil, ce dernier est en train d'écrire. Sur la table traîne une missive qu'Anna ne peut s'empêcher d'observer. Elle vient de la Pietà, l'employeur de Vivaldi. Ah, les nouvelles ne sont pas bonnes. Entre les lignes, la chanteuse peut lire ces quelques mots. « Nous avons le regret de vous annoncer que votre contrat n'est pas prolongé pour la saison à venir. » Vivaldi vient de perdre son filet de sécurité. On lui promet bien des collaborations futures, mais le mal est fait. Le virtuose n'est plus maître de la chapelle. Un coup dur. Enfin, un de plus. Cette sinistrose est en train de tout emporter. La jeune femme ne supporte plus cette ambiance morose. Le monde l'appelle chaque jour un peu plus. Elle veut partir. Tout change. Il lui faut reprendre la route. Doit-elle quitter son plus ancien bienfaiteur, l'homme qu'elle aide depuis tant d'années? Après tout, Venise ne la croit pas talentueuse. Sa réputation est celle d'une artiste à la voix loin d'être sensationnelle. Anna n'est pas dupe. Elle n'est pas un génie comme peut l'être son maître. Mais son jeu scénique ne cesse d'être applaudi. Le poids des racontars vénitiens devient trop difficile à porter pour elle, ailleurs. Elle a des admirateurs sincères. Anna pense sérieusement à lâcher la Sérénissime. Elle le fera bientôt. En attendant, Vivaldi a des projets. Lui aussi comprend que quitter Venise est une bonne idée, d'autant plus après son éviction de la Pietà. Il ne se trompe pas. De nouvelles idées fourmillent en lui. Il faut conjurer le mauvais sort, tenter de se battre contre l'implacable marche du temps et contre l'évolution de la mode. De l'année 1738, Antonio Vivaldi voit l'un de ses concertos être joué au Schauburg d'Amsterdam. L'un des plus célèbres théâtres d'Europe, fête son centenaire et l'œuvre du compositeur italien est toujours très appréciée dans le nord du continent. Certains historiens pensent même que le musicien s'est rendu en Hollande pour mener lui-même l'exécution de son ouvrage. Aucune certitude sur ce point cependant. Enfin, quoi qu'il en soit, après 2 ans de profonde galère, le destin de Vivaldi semble rebondir. Hélas, cette éclaircie n'est que passagère. L'ultime moment de calme avant une tempête qui risque bien de tout emporter. À Venise, une guerre culturelle intestine règne depuis des années. C'est ce conflit d'artistes qui provoque les atermoiements de Vivaldi. Le public se détourne de son travail au profit d'un autre type d'opéra. L'école napolitaine grignote du terrain, saison après saison. L'inventivité baroque qui caractérise le travail de Vivaldi lasse. Sa manière de composer n'attire plus les foules comme avant. Les musiciens napolitains, eux, se meuvent dans un style plus épuré, galant. Naples, 3e ville d'Europe, compte bien combattre Venise sur le seul terrain qu'elle domine encore, celui de la culture. Il faut à la rivale napolitaine quelques années pour devenir, dès 1739, l'une des capitales mondiales de la musique. On y développe l'opéra seria, une manière nouvelle de pratiquer cet art. Sinfonia et Sixte napolitaine découlent de cette variante originale, qui s'impose en Italie et en Europe. Scarlatti, Provenzale, en sont les précurseurs. Et puis derrière eux, une déferlante de jeunes talents vient prendre la place des héros d'hier, le tout sans demander leur reste. Malgré un rebond prometteur, la carrière de Vivaldi prend un tournant définitivement préoccupant. La République de Venise voit fondre sur elle ses ennemis. Sa flotte de guerre, jadis si puissante, se retrouve amoindrie. La cité n'a plus la capacité de la financer correctement. L'arsenal, fondé au tout début du XIIe siècle, se retrouve totalement incapable de supplanter ses rivaux. Cela se matérialise sur le terrain. Derrière les masques et les fêtes, le pouvoir de la Sérénissime s'étiole profondément. Son influence dans l'Adriatique est terminée. Ses possessions dans le Péloponnèse, en Grèce, sont attaquées. Alors que Vivaldi perd sa place à la Pietà, les Turcs s'emparent des dernières places fortes. L'échec est cuisant. Il marque la fin des espoirs pour les troupes de Venise de s'étendre à nouveau sur le sol grec. L'ancienne maîtresse des mers n'a plus le choix. Elle va devoir défendre le peu de possessions qui lui reste. Parmi ces territoires épars, la Dalmatie ou les îles Ioniennes sont en grand danger. L'effroi gagne les cœurs et les esprits. Pourtant, le carnaval continue de griser les locaux et les touristes. Personne ne comprend que la déliquescence à venir risque de chambouler le monde occidental. Et plus encore, de plonger la République de Venise dans un piège terrible. Depuis des siècles, ce régime politique apparaît comme un modèle de stabilité. Et pour combien de temps encore? Antonio Vivaldi, lui, est au bout du chemin. Sa carrière dans sa ville natale est terminée. Le héros de jadis doit partir vers de nouveaux horizons. Il va emporter sa malédiction dans ses bagages. On doit se rendre à l'évidence. Il faut partir et espérer un énième rebond. Printemps 1740, Venise. Le soleil brille. Les beaux jours s'affirment de nouveau. Cette matinée du mois de mai, douce et agréable, se drape du manteau des adieux. Vivaldi quitte sa ville de toujours sans se retourner. Il y a quelques semaines, le compositeur a donné un concert de prestige à la Pietà, son ancien employeur, en l'honneur du prince électeur de Saxe. Mais l'homme n'est plus prophète en son pays. Les plus jeunes de ses confrères, avec un style plus épuré, ont gagné la bataille dans la cité du carnaval. Alors le musicien, symbole d'une époque, a dû se résoudre à l'impensable. Partir. La Pietà, avec qui il s'est si souvent écharpé, lui a acheté un lot de concertos. Il a ainsi pu financer son voyage. L'argent, toujours l'argent. Antonio Vivaldi est fatigué de courir après. Voilà pourquoi il a répondu à l'appel de l'empereur d'Autriche, Charles VI, un homme qu'il admire et qu'il a déjà rencontré. À Vienne, le musicien est perçu comme un messie. Richesse et projets en tout genre attendent le sexagénaire. Anna ne l'accompagne pas. Las des difficultés, son acolyte de toujours navigue vers d'autres cieux. Mais qu'importe. Vivaldi en est persuadé. Il va conjurer le mauvais sort qui le tenaille depuis si longtemps. L'air étranger va lui faire du bien, à lui qui se sent toujours plus oppressé par ses problèmes respiratoires chroniques. Hélas, l'espoir va être de courte durée. La malédiction de Vivaldi va le poursuivre au-delà des frontières de la République de Venise. Arrivé à Vienne au cœur de la belle saison 1740, Vivaldi n'a même pas le temps de profiter de quoi que ce soit. Le souverain Charles VI, qui lui a promis monts et merveilles, passe l'arme à gauche. Pour le musicien, c'est une énième catastrophe. Ses soucis de santé devenant de plus en plus criants, la situation s'envenime, tant et si bien qu'à la fin du mois de juillet 1741, environ un an après son arrivée, le plus grand génie musical de son temps est emporté par une infection. Lui, le symbole de la Venise baroque, meurt à des centaines de kilomètres de sa patrie. Le tout dans une pauvreté terrible, très loin des sommets qu'il a longtemps trustés. Alors pourquoi est-il parti? Si le sort semble s'acharner sur lui dans les dernières années de sa vie, tout ne va pas si mal. Il parvient à travailler malgré des interdictions, malgré ses relations tendues avec la Pietà. Il n'y a qu'une donnée que l'exilé ne pouvait pas maîtriser. La crise économique et politique traversée par la République vénitienne. Des choix durs sont opérés par le régime, notamment une réduction drastique des dépenses. L'instabilité de la Sérénissime a peut-être servi de déclic aux musiciens. Mais contre le déclin de Venise, ils ne pouvaient rien. En un rien de temps, le régime va s'effondrer. Les difficultés économiques et structurelles de l'ancienne grande puissance deviennent légion. Venise fait le choix désespéré de fermer 127 monastères pour vendre leurs biens au profit des caisses nationales. Politiquement, le régime vacille dans une rivalité des partis qui déstabilisent les institutions. Bientôt, Venise devient la scène d'une tragédie. Il ne manque plus qu'une étincelle pour que tout explose véritablement. En 1796, la France révolutionnaire et son armée d'Italie, commandée par un certain Bonaparte, s'emparent de la Lombardie. Le territoire vénitien est la seule frontière qui sépare le chef de guerre de l'Autriche. Mais fidèle à ses alliances, Venise refuse trois fois de signer un traité avec les Français. La République séculaire signe là son arrêt de mort. L'année suivante, l'avancée des troupes tricolores sème la panique. Le jeune aigle gagne. L'armistice de Léobène prévoit la dilapidation des territoires de Venise. Rancunier, Bonaparte fera confirmer cela dans le traité officiel de Campo Formio, signé avec l'Autriche. Le 30 avril 1797, les canons français sont à portée de tir de la ville. À la mi-mai, tout est fini. Pour la première fois de son histoire, des troupes étrangères pénètrent dans la Sérénissime et l'occupent. La République, en place depuis des siècles, est décapitée, fin de l'histoire, pour un régime qui fut pendant des temps immémoriaux l'un des plus puissants du monde occidental. Vivaldi, lui, est mort depuis un demi-siècle. Le plus grand compositeur de son époque est déjà tombé dans l'oubli. Cela peut paraître totalement insensé aujourd'hui, mais la profusion et la richesse de l'œuvre du compositeur italien vont passer inaperçues pendant plus de 100 ans. Au 19e siècle, un certain Jean-Sébastien Bach adapte plusieurs des concertos du maître de l'opéra. Il est bien le seul. Il faut attendre les années 1920 pour que les musicologues de la botte, Alberto Gentili en tête, se mettent à étudier de près les travaux de Vivaldi. C'est là, dans l'Italie fasciste, que débute le recensement officiel de ses œuvres. C'est bien simple. Alors que le génial musicien est décédé depuis près de trois siècles, il continue de nous surprendre. En 2020, l'un de ses concertos pour flûte a été découvert dans les malles d'un lord écossais. Il n'est pas rare encore de voir apparaître certaines partitions du musicien. On estime à un peu moins de 800 le nombre de ses compositions. Plus encore que le nombre impressionnant, c'est la qualité et la pluralité de son œuvre qui provoque l'admiration. Pour beaucoup, Vivaldi est l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Interpellant. Lorsqu'on sait que, tout comme la République de Venise, la grande histoire aurait pu l'avaler dans les limbes de l'oubli et de l'indifférence.